Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Lefebvre, commissaire de l'exposition Institut canadien de Montréal, Tolérance et liberté de pensée, et agent de recherche à la Direction de la recherche et de l'édition. Elle est également spécialiste en histoire du livre et des bibliothèques. En fait, en complément de l'exposition, cette conférence décrira l'histoire de cette institution au 19e siècle. Une institution qui s'est démarquée par son ouverture à la différence et aux idées progressistes. À la suite d'une lutte acharnée que lui a livrée le clergé, l'Institut canadien de Montréal fermera ses portes en 1880 et cédera 5 ans plus tard sa bibliothèque à l'Institut Fraser. C'est en 2006 que nous avons acquis la collection jusqu'alors conservée par l'Institut Fraser-Hickson. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. John Dismore, président du conseil d'administration de l'Institut Fraser-Hickson, ainsi que les administrateurs qui les accompagnent. Je profite de l'occasion pour les remercier chaleureusement pour le don de la collection de l'Institut canadien de Montréal. Nous aurons l'occasion de souligner cette importante contribution de manière plus officielle la semaine prochaine. Avant de céder la parole à Mme Lefebvre, je vous rappelle d'éteindre vos cellulaires et qu'il est interdit de prendre des photos ou d'effectuer toute autre forme d'enregistrement. Vous pourrez par ailleurs entendre cette conférence prochainement sur le portail de BANQ. Je vous souhaite de passer un agréable moment.
Bienvenue à tous et merci d'être ici. J'aimerais aujourd'hui vous raconter l'histoire passionnante d'une institution peu connue du grand public, mais marquante pour la vie intellectuelle du 19e siècle. Je commencerai par vous entretenir brièvement de la situation des bibliothèques, qu'on dit publiques à l'époque, pour mettre en contexte la fondation de l'Institut canadien de Montréal. Puis je relaterai les moments forts de l'existence de cette association, en utilisant notamment des documents imprimés et d'archives et des extraits de textes de l'époque. J'espère pouvoir vous communiquer la force des idéaux progressistes des membres de l'Institut qui se sont battus pour offrir aux Montréalais un lieu de tolérance et de liberté de pensée. Peut-être qu'au terme de cette présentation, votre vision de la vie intellectuelle du Québec d'autrefois aura un peu changé. La présentation durera environ 45 minutes, une période de questions suivra. Au 18e siècle et durant la première moitié du 19e siècle, les bibliothèques publiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire financées par des fonds publics, gérées par les municipalités et ouvertes gratuitement à tous, n'existent pas. Des bibliothèques personnelles de collectionneurs sont parfois ouvertes à un certain nombre de lettrés. Les congrégations religieuses possèdent des bibliothèques pour répondre aux besoins de leurs membres. Toutefois, des bibliothèques ouvertes à un plus grand nombre commencent à apparaître. Parlons d'abord des bibliothèques circulantes, qui sont un peu dans l'esprit de nos clubs vidéo actuels, c'est-à-dire que des commerçants louent des livres à l'unité. Ils disposent d'une collection et la bibliothèque doit être rentable. Il faut bénéficier d'un certain revenu pour se prévaloir de ce service. Existent aussi des bibliothèques de souscription. Il s'agit d'individus qui se regroupent pour mettre des fonds en commun, afin d'acquérir des ouvrages qui formeront une bibliothèque à l'usage des souscripteurs. Contrairement aux bibliothèques circulantes, ici la recherche de profit est absente. La bibliothèque est gérée par un groupe de gens intéressés par la lecture et non par un marchand. Mais encore une fois, il faut investir un certain montant d'argent pour y adhérer, ce qui les rend inaccessibles aux classes plus pauvres. Ces types de bibliothèques ont existé au Québec, mais en petit nombre, et ont surtout été le fait de la communauté anglophone. Au 19e siècle, les associations de profession se développent, et certaines se dotent de bibliothèques pour répondre à leurs besoins professionnels, associations de marchands, d'avocats, de médecins, etc. Les collections sont axées sur des domaines de connaissances en lien avec le travail professionnel des membres et non pas de visée encyclopédique. Le développement industriel génère pour sa part un besoin en ouvriers spécialisés instruits. Les industriels créent donc des instituts d'artisans pour permettre à ceux-ci de se tenir au courant des innovations techniques. Ces instituts jouent un peu le rôle d'une éducation permanente et offrent à une classe sociale moins privilégiée un accès à des bibliothèques. mais on s'adresse encore ici à des clientèles relativement ciblées. De nouvelles associations à but culturel et éducatif apparaissent alors, d'abord dans les milieux anglophones, puis chez les francophones. Elles sont fondées par des citoyens qui souhaitent voir la culture se développer dans leur ville, et elles s'adressent à tous. Elles se dotent naturellement de bibliothèques, même si elles ont des visées plus larges de développement et d'accès à la culture et au savoir. C'est dans ce contexte que naît l'Institut canadien de Montréal. Jean-Baptiste Éric Dorion, un membre de l'association qui sera plus tard député au Parlement, raconte 8 ans après les faits la réunion de fondation de l'Institut canadien de Montréal. C'était, dit-il, le 17 décembre 1844. 7 heures du soir venaient de sonner. On pouvait voir ça et là plusieurs petits groupes de jeunes hommes longeant les principales rues et se dirigeant vers le centre de notre ville. Qu'y avait-il donc de si extraordinaire? Où allait cette foule de jeunes gens? Suivez-les dans la petite rue Saint-Jacques, entrez dans le couloir où ils se précipitent avec ardeur, montez à la salle de la Société d'histoire naturelle et vous verrez ce qu'ils y vont faire. Répondant à l'appel de plusieurs jeunes amis de leur pays qui sentaient le besoin de créer un point de ralliement pour la jeunesse de Montréal, un centre d'émulation où chaque jeune homme entrant dans le monde pourrait venir s'inspirer, d'un pur patriotisme, s'instruire en profitant des avantages d'une bibliothèque commune et s'habituer à parler en prenant part aux travaux de cette tribune ouverte à toutes les classes et à toutes les conditions, plus de 200 jeunes gens s'étaient réunis dans ce forum improvisé où l'on discutait l'opportunité, l'utilité et la nécessité de jeter les bases d'une association qui pourrait atteindre ce triple but. La constitution de l'Institut stipule qu'il est fondé dans un but d'union, d'instruction mutuelle et de progrès général. Il s'agit d'une association de membres qui paie une cotisation et qui élise un comité de régie pour diriger et organiser les activités de l'association. L'Institut se dote d'une bibliothèque, d'une chambre de nouvelles, c'est-à-dire une salle où on peut venir lire sur place les journaux contenant les nouvelles récentes, à une époque où les abonnements individuels à des journaux ne sont pas encore accessibles à toutes les bourses. L'Institut organise aussi des conférences pour permettre à tous d'apprendre à s'exprimer en public et pour partager et échanger des savoirs. Il y aura trois types de conférences, les conférences publiques, les essais et les débats. Au départ, l'association, qui se veut rassembleuse, est apolitique et ouverte à toutes les classes sociales. On peut être abonné à la bibliothèque et à la chambre de nouvelles sans être membre de l'Institut. Les membres complets, eux, peuvent voter et être élus sur le comité de régie de l'association. Les membres les plus actifs du début sont cependant surtout des étudiants et de jeunes professionnels. L'association naît alors que le contexte politique est explosif. Les rébellions de 1837-1838 ont mené au rapport Durham et au régime de l'Union des deux Canadas, injuste envers les Canadiens français et qui tend à donner le pouvoir réel aux anglophones du Haut-Canada. C'est-à-dire que le nombre de sièges pour le Bas et le Haut-Canada sont égaux, malgré une population beaucoup plus élevée dans le Bas-Canada. La Chambre est unilingue anglaise. La dette des deux Canadas est partagée, alors que celle du Haut-Canada est beaucoup plus élevée que celle du Bas-Canada. Donc, tout cela crée des tensions. On assiste donc à une opposition entre ceux qui exigent le rappel, l'abolition de l'Union, les libéraux radicaux, qui sont représentés par Louis-Joseph Papineau, et ceux qui souhaitent s'accommoder du nouveau régime, c'est-à-dire aller chercher du pouvoir par l'intérieur, les libéraux modérés, qui sont représentés par Louis-Hippolyte Lafontaine. Il est important de rappeler ici le sens qu'on donnait alors au mot « libéral ». Il s'agit de personnes progressistes, démocrates, attachées aux libertés et à la souveraineté du peuple. Donc, évidemment, c'est le sens du mot a changé avec les années, mais à la base, c'était ce que ça signifiait. Louis-Joseph Papineau, le héros de la rébellion de 1837 et libéral radical, est rentré d'exil en 1845. Dès le début, il s'intéresse à l'Institut. Pour les jeunes Canadiens français de l'époque, c'est une icône, un modèle à suivre. Certains des membres les plus actifs de l'Institut, des admirateurs de Papineau, dont Jean-Baptiste, Éric Dorion, Joseph Papin, Joseph Doutre, Rodolphe Laflamme, ont fondé le journal L'Avenir en 1847, un journal radical dont les positions vont s'opposer de plus en plus aux positions de la Minerve, journal favorable ou modéré. En mai 1848, l'élection au poste d'officier de l'Institut de plusieurs libéraux radicaux proches de Papineau accentue les tensions internes à l'Institut entre les radicaux et les modérés. L'Institut se politise, mais se veut toujours ouvert aux opinions de tous et prêche la tolérance et la liberté de penser. Les tensions entre radicaux et libéraux sont aussi accrues par des événements importants qui se produisent en Europe. La Révolution française de février 1848, qui amène progressivement en France une république démocratique avec suffrage universel, et la Révolution nationaliste italienne de 1848, qui oblige le pape Pie IX à céder une partie de son pouvoir temporel, il est jusque-là le souverain de vastes états pontificaux, pour le remplacer par un gouvernement constitutionnel. Devant la radicalisation des positions des nationalistes italiens, il finira même par devoir s'enfuir de Rome. Alors que les radicaux canadiens-français voient ces révolutions d'un œil plutôt bienveillant, les modérés craignent les débordements et cherchent des solutions moins extrêmes aux injustices que vivent les Canadiens-français. On se doute que le clergé commence lui aussi à prendre ses distances avec l'Institut. D'autant plus qu'en 1850, celui-ci modifie sa constitution pour permettre à des personnes de toute nationalité et de toute confession religieuse d'en faire partie. Auparavant, l'Institut était théoriquement ouvert seulement aux Canadiens français catholiques. Mais évidemment, et surtout ici dans le contexte d'une bibliothèque et d'un lieu de discussion, donc de lecture et d'échange d'idées, cette situation dérange le clergé, qui lutte à l'époque contre le prosélytisme des protestants envers les catholiques. Progressivement, le clergé va organiser l'offensive contre l'Institut. La modification de la constitution de l'Institut que je viens d'évoquer a lieu à la suite de la destruction par un incendie des archives de la bibliothèque de l'Institut. La collection est entièrement détruite, à l'exception de 51 livres alors empruntés par les abonnés. L'Institut se remet cependant rapidement sur pied. Le 17 décembre 1850, soit 10 mois après l'incendie, il dispose déjà de 700 volumes et de 115 livres sterling réunis par souscription. Comme vous le voyez à l'écran, en 1852, il a 418 membres et possède 2000 volumes, dont près de 1500 obtenus par don, c'est-à-dire le trois quarts des ouvrages. L'année suivante, on tombe à 500 membres et 2700 volumes, puis en 1854, 629 membres et 3400 volumes, et en 1855, 664 membres et 4000 volumes. Donc, on voit que la progression est quand même assez rapide. Je viens de noter que près des trois quarts des volumes de la bibliothèque en 1852 proviennent de dons. Ce n'est pas une situation inhabituelle. À l'époque, les bibliothèques publiques comptent beaucoup sur les dons de particuliers ou des institutions pour s'enrichir. Elles ne disposent pas de fonds publics ou alors très peu. Ces bibliothèques s'autofinancent grâce aux cotisations des membres et aux souscriptions publiques. En 1851, le gouvernement votera bien un acte favorisant l'incorporation des associations de bibliothèques et d'artisans et l'octroi de subventions gouvernementales, mais il ne s'agit pas encore de mesures garantissant des montants suffisants et récurrents de la part de l'État. Les membres et amis de l'Institut offrent donc des livres et de l'argent pour acheter des ouvrages. Des propriétaires offrent des abonnements gratuits à leurs journaux également. Par exemple, Louis-Joseph Papineau offrira les œuvres de Molière dans une édition de 1819. Il offrira aussi plus tard un ouvrage à l'index, Les mystères du peuple ou histoire d'une famille de prolétaires à travers les âges, du socialiste Eugène Sue. Arthur Bui, quant à lui, offrira aussi un ouvrage à l'index, Les œuvres de Machiavel. Le secrétaire d'État américain, William Henry Seward, offre The Assassination of Abraham Lincoln, un ouvrage qui est édité peu de temps après l'assassinat de Lincoln. Le prince Napoléon, qui est un cousin de l'empereur Napoléon III, fait lors de son séjour à Montréal en 1861 un riche don de livres, de cartes et de gravures à l'Institut. Le clergé condamnera vigoureusement le lien qui s'établit alors entre ce prince, grand démocrate et anticlérical, et l'association. Le prince Napoléon demeurera cependant le plus généreux donateur de l'Institut. On voit ici le prince Napoléon et un des ouvrages qu'il a offert. L'Institut de France offre également des ouvrages de façon régulière à partir de 1854, suite à des démarches de Joseph-Guillaume Barthes pour une forme d'association libre entre les deux instituts. Il s'agit principalement de mémoires, de comptes rendus, d'observations scientifiques présentées par les différentes académies de savants qui en sont membres. En 1866, cette collection comporte déjà 200 ouvrages. Évidemment, le fonds recréé après 1850 contient aussi des ouvrages non orthodoxes, comme le montre le premier catalogue publié des livres de l'Institut en 1852. On y retrouve notamment plusieurs livres à l'index. Jean-Jacques Rousseau, Félicité de Lamennais, Eugène Sue, Alexandre Dumas, dont toute l'œuvre romanesque est à l'index, Victor Hugo, Milton, Molière, dont plusieurs œuvres sont à l'index également. Donc, ces titres font partie de la collection de l'Institut dès cette époque. Cependant, fidèles à leurs idées de tolérance et de pluralisme, les membres de l'Institut intègrent aussi à leur collection des ouvrages plus conformes aux idéologies du clergé. Je pense par exemple ici à deux ouvrages de l'abbé Hulot, « Instructions sur la danse » et « Instructions sur les spectacles », qui mettent en garde contre les dangers terribles de ces activités. Il y a un autre ouvrage aussi d'un monsieur Bergier qui est une réfutation des ouvrages de Jean-Jacques Rousseau. Donc, on a à la fois Jean-Jacques Rousseau dans la collection et un ouvrage de réfutation de Jean-Jacques Rousseau. Le journal que Mgr Bourget a contribué à mettre sur pied, Les mélanges religieux, font partie de la collection aussi, de même que le journal La Minerve, qui est le journal des modérés de Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, l'Institut a du succès. En 1852, la circulation des volumes est de 200 par mois. La Chambre des Nouvelles est ouverte tous les jours en été, de 7 heures du matin à 10 heures du soir, et l'hiver de 8 heures du matin à 9 heures du soir. Mais après avoir logé dans différents locaux, l'Institut lance une souscription pour l'achat d'un terrain. En 1854, il acquiert rue Notre-Dame, un immeuble de 2 étages qui lui permet enfin d'avoir un local permanent dont il soit propriétaire. Financièrement, il dispose des cotisations des membres, des abonnements à la bibliothèque, des dons du public et de certaines subventions gouvernementales. L'Institut décide aussi de louer des locaux commerciaux au rez-de-chaussée pour s'assurer d'un revenu stable. 1854 est aussi l'année où 13 des membres de l'Institut deviennent députés au Parlement, du côté de ceux qu'on appelle les Rouges, les libéraux radicaux. Leurs succès électoraux, ne seront cependant pas de longue durée. Ils demandent notamment l'abolition du régime seigneurial et de la dîme, privilège des plus riches évidemment. Ils demandent le suffrage universel, car à l'époque, il fallait posséder des biens ou avoir un certain revenu pour pouvoir voter. Et évidemment, les femmes ne pouvaient pas voter. Et une éducation laïque, non confessionnelle, payée par l'État, ce qui, quand même, à l'époque, était assez avant-gardiste. Au même moment, le conflit entre les libéraux de l'Institut et le clergé se cristallise autour de 2 personnes. D'abord, Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal et ultramontain, c'est-à-dire un homme qui défend la primauté du pape et qui prône la soumission des fidèles au clergé sur toutes les questions, même politiques. Il se montre très méfiant face à une démocratie qui donne la liberté d'opinion au peuple, alors que celui-ci devrait plutôt suivre, sans question, ceux qui ont été choisis par Dieu pour les gouverner. Bien évidemment, il cherche à contrôler les lectures des catholiques, car il est convaincu que les mauvais livres sont une source empoisonnée qui corrompt le cœur et l'esprit et suscite les idées révolutionnaires. De l'autre côté du ring, nous avons Louis-Antoine Dessaulles, qui est avocat et député des Rouges pour Saint-Hilaire pendant un certain temps, collaborateur des journaux libéraux L'Avenir puis Le Pays. C'est aussi le neveu préféré de Louis-Joseph Papineau. Il défend la tolérance, la liberté de penser, le progrès et les libertés démocratiques, la séparation de l'Église et de l'État, et même à un certain moment, l'annexion du Bas-Canada aux États-Unis, les États-Unis étant une république. Donc, le premier affrontement entre le clergé, qui se passe à travers certains membres de l'Institut, et les radicaux, a lieu en 1855. Des membres proposent d'exclure certains journaux protestants de la Chambre des nouvelles de l'Institut. La majorité vote contre l'exclusion. Dessaulles, dans son discours sur l'Institut canadien de 1862, explique ainsi rétrospectivement cette décision. Et je le cite, « Cet institut étant basé sur un principe de tolérance, de bienveillance mutuelle, la diversité de croyances religieuses n'étant pas un obstacle à l'admission parmi nous. Nous nous fussions clairement mis en contradiction avec nous-mêmes si nous avions banni certains journaux parce qu'ils ne représentaient pas la croyance de la majorité. Une association ayant pour but l'étude et l'enseignement mutuel ne comporte pas de soi l'exclusivisme religieux. » Dessaulles fait donc la distinction entre les convictions religieuses individuelles des membres et le fait que l'association elle-même se veuille non confessionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit anticatholique. Mais le clergé ne désarme pas. Monseigneur Bourget craint de voir se reproduire au Canada les révolutions européennes si les idées démocratiques qui sous-tendent ces révolutions sont véhiculées. Il craint aussi pour la foi catholique et les bonnes mœurs du peuple si celui-ci lit des ouvrages impies et immoraux. En 1858, Monseigneur Bourget publie coup sur coup trois lettres pastorales à ce sujet. Dans la première des trois lettres, celle du 10 mars, il ordonne aux catholiques, et je le cite, « Ne lisez aucun livre dont la doctrine et la morale ne soient pas approuvées par l'Église. Si vous faites partie de quelque institut littéraire, regardez-vous comme strictement obligé de ne pas permettre qu'il s'y introduise des livres contraires à la foi et aux mœurs. » Que si déjà de mauvais ouvrages se trouvent dans la bibliothèque de tel institut, et on sent bien ici qu'il vise l'Institut canadien de Montréal, vous devez en conscience faire tous vos efforts pour les faire disparaître, en usant par exemple de toute votre influence et en vous unissant à tous ceux qui tiendraient comme vous au bon principe pour que ces mauvais livres soient jetés au feu. Ensuite, il indique que s'il est impossible d'éliminer ces livres de l'Institut, il faut le quitter en protestant énergiquement et publiquement. Un mois plus tard, comme par hasard, le 13 avril 1858, des membres de l'Institut proposent de créer un comité pour établir une liste des livres qui devraient être expulsés de la bibliothèque. Après de houleuses discussions, la proposition est rejetée. On rejette ainsi l'idée que la bibliothèque contient des livres immoraux, des livres immoraux ou même de nature obscène. Dessaulles nous raconte encore une fois dans son discours de 1862. Enfin, l'Institut déclarait d'une manière très compréhensible qu'il entendait être maître chez lui. En résulte une scission à l'Institut. 138 membres favorables à la censure de la bibliothèque quittent l'association pour former une association rivale, l'Institut canadien-français. Tout de suite après la scission, Monseigneur Bourget revient sur la réunion du 13 avril dans une autre lettre pastorale, affirmant que les demandeurs avaient incontestablement, je cite, « le droit d'exiger que la bibliothèque cessât enfin d'être une cause si malheureuse d'impiété et d'immoralité, non seulement pour les membres de l'Institut, mais encore pour tous les citoyens qui peuvent y avoir accès puisqu'elle est ouverte au public. Donc, on voit que c'est vraiment une crainte de contamination à travers la population catholique. En se basant sur le Concile de Trente, qui, je le rappelle, date de 1545-1563, donc quelques siècles, Bourget affirme que l'Église se trouve incontestablement investie du droit de régler l'administration de toutes les bibliothèques du monde. Rien de moins. Il termine en menaçant les membres de peines terribles s'ils continuent dans la voie choisie. « Et en effet, dit-il, il s'ensuivrait qu'aucun catholique ne pourrait plus appartenir à cet institut, que personne ne pourrait plus lire les livres de sa bibliothèque et qu'aucun ne pourrait à l'avenir assister à ses séances ni aller écouter ses lectures. Ce n'est pas nous qui prononçons cette terrible excommunication dont il est question, mais l'Église, dont nous ne faisons que publier les salutaires décrets. Dans les faits, cela veut dire que les membres de l'Institut ne pourront plus recevoir l'absolution de leurs confesseurs, qu'ils ne pourront plus faire leur Pâques avec les membres de leur famille. En fait, ça veut dire qu'ils sont mis au banc de l'Église. Ce qui est en jeu ici, évidemment, c'est la question de la censure des bibliothèques. Or, qu'est-ce qu'un mauvais livre? Qui peut en juger? Dessaulles, toujours Dessaulles, dans son discours de 1862, écrit « Il est toujours facile, messieurs, de faire une longue tirade de lieux communs, d'écrire des phrases à perte d'haleine sur le danger des mauvaises lectures, car il y a toujours une somme de vrai dans les idées qu'on exprime, vu que tel livre, parfaitement inoffensif pour l'un, peut ne pas l'être pour l'autre. Maintenant, de ce principe que toute lecture n'est pas bonne à tout le monde, va-t-on déduire cet autre principe, qu'une bibliothèque ne doit contenir que des livres inoffensifs à tout le monde? Il faudra donc mesurer la bibliothèque à l'ignorance et non à l'instruction? Il faudra donc qu'un homme instruit se contente de livres où il n'aura rien à apprendre? Va-t-on donner des permis d'après le caractère, le degré d'instruction? Qui sera juge? C'est là que le bât blesse, car le clergé veut se donner ce rôle de juge que l'Institut lui refuse. Malgré la lutte, une portion de la population continue quand même à fréquenter l'Institut, dont la collection est riche et diversifiée. En 1862, l'Institut comporte encore 500 membres. Vers 1864, on apprend que l'édifice de l'Institut doit être démoli en raison de travaux d'élargissement de la rue. Ce sera l'occasion d'édifier sur le même terrain un nouveau bâtiment de 3 étages marqué aux armes de l'Institut. L'inauguration aura lieu en 1866. L'édifice contient au rez-de-chaussée des espaces à louer pour 2 grands magasins. Au premier étage, la chambre de nouvelles et la bibliothèque, plus 4 bureaux d'affaires. Au deuxième étage, une grande salle de 700 à 800 places pour les conférences et les concerts. Et au troisième étage, une autre salle un peu plus petite dont on ne spécifie pas l'usage. La même année, l'édifice, au moment de l'inauguration, l'édifice contient 6500 volumes, plusieurs milliers de gravures et même des photographies, alors que la photographie était assez jeune à l'époque, 700 titres de journaux et des archives comprenant 3000 documents. Pardon. De même que des objets d'art d'un musée créé par l'Institut, un musée qui se veut une véritable encyclopédie matérielle et qui contient notamment des reproductions d'œuvres d'art offertes par Napoléon III. Dessaulles, président de l'Institut en 1866, affirme au moment de l'inauguration de l'édifice « On me permettra bien de dire, sans vouloir être agressif, que l'Institut est plus vivant que jamais. » On ne l'a pas tué du tout. Mais pour le nouvel édifice, il a fallu emprunter 12 000 $, une somme considérable à l'époque. Tant que les locaux du rez-de-chaussée peuvent être loués, la situation est stable. Mais quand la crise économique du début des années 1870 arrivera, les problèmes financiers deviendront de plus en plus criants. En 1863-64, l'Institut essaie d'aplanir les difficultés avec le clergé. s'entend bien quand même que pour lui, la vie serait plus simple si tout cela était chose du passé. Un comité est spécialement chargé de rencontrer Mgr Bourget pour essayer de régler le problème de la condamnation de l'évêque de 1858. Malheureusement, les deux rencontres qui s'ensuivent ne donnent aucun résultat, les positions de chacun étant irréconciliables. Devant cet échec, en 1865, 17 membres catholiques de l'Institut adressent en leur nom personnel un appel à Rome afin de trancher sur la légitimité de la condamnation prononcée par Mgr Bourget contre l'association. Ils jugent qu'ils ont été condamnés injustement. Dans son rapport de 1866, l'incontournable Dessaulles écrit « Espérons donc, messieurs, que nos luttes vont bientôt cesser, que l'on nous rendra plus de justice que par le passé, que l'on comprendra autour de nous qu'il y a ici un important foyer d'instruction, qu'il n'est en quelque sorte pas permis de négliger systématiquement, dans un pays où les livres sont rares et coûtent si cher. » Que la jeunesse studieuse de Montréal comprendra aussi que c'est elle que l'on amoindrit en lui fermant, par suite d'un préjugé qui s'obstine contre les faits, une source de progrès, d'avancement intellectuel. Qu'elle ne gagne rien à détourner constamment sa vue du dépôt important des trésors de l'intelligence humaine que nous possédons ici et qui est à sa disposition. Malheureusement, comme on va le constater par le récit des événements des années suivantes, le préjugé va perdurer. En 1868, Rome n'a toujours pas répondu à l'appel des 17 membres de l'Institut. Louis-Antoine Dessaulles devient impatient. Il fait publier dans l'annuaire de l'Institut canadien pour 1868 un discours sur la tolérance qu'il a prononcé au 24e anniversaire de l'Institut. Dans ce discours, il s'en prend à l'intolérance d'une certaine portion du clergé québécois, bourgeois et les ultramontains, en appuyant ses propos sur des textes de la Bible et des écrits d'hommes d'Église modérés. Il s'érige contre les prétentions ultramontaines de placer l'Église au-dessus de l'État et contre le pouvoir temporel du pape. Il termine en reprenant le débat sur les livres à l'index. « Eh oui, dit-il, nous avons quelques livres à l'index qui se trouvent dans toutes les bibliothèques, même catholiques, de France, d'Angleterre et des États-Unis. Maintenant, bien des personnes croient qu'un livre à l'index est nécessairement un mauvais livre. Et pourtant, rien n'est moins exact, en fait. Il y a d'excellents livres qui sont à l'index. » Bref, il se montre très imprudent. Mgr Bourget n'apprécie pas ce genre de déclaration. Donc, il saute sur l'occasion et envoie un mémoire contenant des extraits de cet annuaire à la Sainte Congrégation de l'Inquisition générale de Rome, celle qui s'occupe de mettre les ouvrages à l'index, demandant une condamnation officielle de l'Institut. Quelques mois plus tard, en juillet 69, Rome met à l'index l'annuaire de l'Institut canadien pour 1868. Il s'agit du premier ouvrage québécois à être intégré dans cet index des livres prohibés. Ensuite, Bourget fait lire dans toutes les églises du diocèse le 29 août une annonce qui stipule « Celui qui persiste à vouloir demeurer dans le dit institut ou à lire ou seulement garder le susdit annuaire sans être autorisé par l'Église se prive lui-même des sacrements, même à l'article de la mort. » Et justement, trois mois plus tard, le 18 novembre 1869, Joseph Guibard, un membre de l'Institut canadien et typographe de conditions modestes, décède. La paroisse de Montréal refuse de l'inhumer en terre consacrée sous prétexte qu'il n'a pas renoncé à faire partie de l'Institut avant de mourir et qu'il est donc sous le coup d'une excommunication. On veut l'enterrer dans la partie du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, qui est l'actuel cimetière Côte-des-Neiges, dans cette partie réservée aux enfants morts sans baptême, aux suicidés et aux criminels exécutés. Les membres de l'Institut convainquent la veuve de Guibard, Henriette Brown, d'aller en cour pour contester le droit de la paroisse à refuser l'inhumation. L'Institut fournit les fonds financiers et les avocats pour le procès. Ce procès devient un symbole de la lutte contre l'ingérence du clergé dans la vie des citoyens. Est-ce que le droit ecclésiastique est au-dessus du droit civil? Est-ce que l'Église est dans l'État ou est-ce l'État qui se trouve dans l'Église? De Saul fait des conférences sur ce que l'on appelle déjà l'affaire Guibard et sur la mise à l'index de l'annuaire de 1868. Ses discours sont publiés dans l'annuaire de l'Institut canadien pour 1869, qui est à son tour mise à l'index l'année suivante par la Sainte Congrégation de l'Inquisition générale de Rome. Mais l'Institut ne se laisse pas abattre. Il publie en 1870 son second catalogue, qui sera suivi d'un supplément en 1876. Près de 13% des livres du catalogue figurent à l'index, ce qui démontre que l'Institut n'entend toujours pas se soumettre aux exigences de l'Église malgré les condamnations. L'analyse du catalogue permet de constater, entre autres, que la portion consacrée à la littérature est en progression. 32% au catalogue de 52 contre 45% à celui de 70-76, ce qui est vraisemblablement dû à une forte demande de la part des abonnés. En fait, les romans constituent les trois quarts des documents empruntés à cette époque. Et les 10 ouvrages les plus empruntés entre 1865 et 1875 sont tous des romans prohibés. 7 ont été écrits par le prolifique Alexandre Dumas et 3 par Eugène Sue, un écrivain socialiste. Le catalogue contient 137 titres d'Alexandre Dumas, dont toute l'œuvre romanesque est à l'index. On constate donc qu'une partie de la population montréalaise se soucie peu des menaces du clergé et entend juger elle-même de la valeur de ses lectures. Les administrateurs de la bibliothèque s'assurent que celle-ci soit ouverte à des heures variées pour que tous puissent en profiter. On peut lire dans le catalogue de 1870 que la bibliothèque est ouverte aux visiteurs et pour changer les livres le matin de 8h à 10h, l'après-midi de 4 à 6 et le soir de 7 à 9h. La composition des emprunteurs de livres change aussi avec les années. Les femmes y resteront toujours peu nombreuses, moins de 5%, mais on peut supposer que leur mari, leur frère ou un autre membre de leur famille emprunte des ouvrages pour elles. Du moins, on le souhaite. De plus en plus de petits commerçants, fonctionnaires, commis, puis d'artisans et même d'ouvriers commencent à fréquenter la bibliothèque. Des statistiques indiquent que le nombre d'artisans abonnés passe de 5,5% du total des emprunteurs en 1868 à 26,8% en 1875. Il faut dire qu'en 1872, on modifie encore une fois la constitution de l'Institut pour rendre l'abonnement à la bibliothèque gratuit, ce qui permet à un plus grand nombre d'y avoir accès. Après 4 procès, l'Institut remporte en 1874 son pari contre l'Église dans l'affaire Guibard. Le jugement définitif du Conseil privé de Londres autorisant l'inhumation en terre consacrée de Joseph Guibard. L'enterrement aura lieu le 16 novembre 1875 au cimetière catholique Notre-Dame-des-Neiges, sous la protection de la police et de l'armée, en raison de la vive opposition populaire. Une première tentative, le 2 septembre, pour transporter le corps du cimetière protestant Mont-Royal, où il repose depuis 6 ans, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, avait échoué parce qu'une foule hostile bloquait l'entrée du cimetière et jetait des pierres au cortège. Vous avez ici à l'écran une feuille volante qui a été probablement imprimée entre les deux tentatives d'enterrement. Je vais vous lire pour le plaisir le premier paragraphe. Ça va comme suit. De l'Institut, la bande inique voulait quand même pénétrer au cimetière catholique pour M. Guibard enterré. C'était écrit de par la reine, c'était commandé par la loi. Eh bien, malgré la souveraine, le peuple défendit sa foi. Donc, on voit que c'est vraiment un pamphlet contre l'enterrement de Guibard. On voit aussi que c'est ça, la population et une bonne partie de la population a pris le côté du clergé contre l'Institut à cette époque. Donc, il devient évident que le clergé a gagné la guerre. L'ultramontanisme est bien installé au Québec. La réputation de l'Institut a souffert des procès, de même que son portefeuille. Son désir de rendre l'accès à la bibliothèque gratuit l'a privé d'une partie de ses revenus. Depuis le début des années 1870, une crise économique mondiale sévit. L'Institut n'arrive plus à louer ses locaux du rez-de-chaussée, ou alors à moitié prix seulement, ce qui le prive d'un autre revenu. Ses dettes deviennent criantes. Le 6 août 1880, l'Institut canadien de Montréal doit fermer ses portes. C'est la fin d'une longue bataille et l'ultramontanisme l'a emporté sur le libéralisme. La bibliothèque et l'édifice sont offerts une première fois à l'Institut Fraser en échange du règlement de sa dette, mais les tractations échouent. L'Institut vend son édifice fin 1880 et doit trouver un endroit pour loger sa collection. Elle est refusée par la Ville de Montréal, qui pourtant n'a pas encore de bibliothèque, par l'Institut des artisans et par l'Université McGill, probablement parce qu'ils craignent d'hériter des problèmes liés à cette collection controversée. En 1882, l'Institut fait un prêt temporaire de sa collection au Club canadien. La collection est probablement à l'époque déménagée dans la maison Jourdouin, qui est alors propriété du Club canadien, ce qui constitue en quelque sorte un clin d'œil de l'histoire, puisque cette maison fait aujourd'hui partie des édifices de BANQ. Elle est intégrée au Centre d'archives de Montréal. En 1885, les tractations avec l'Institut Fraser reprennent. Finalement, l'Institut canadien fait don de sa bibliothèque, à la condition que la collection demeure accessible gratuitement à tous et qu'elle continue à être enrichie par des titres de langue française. Grâce à la collaboration de l'Institut Fraser-Hickson, depuis lors propriétaire de la collection de l'Institut canadien de Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec a pu acquérir en 2006 ces documents si importants pour reconstituer l'histoire de l'Institut canadien de Montréal. Ce qui reste aujourd'hui de cette collection, près de 1380 titres, représentant 3140 unités matérielles, en plus des documents d'archives de l'Institut. BANQ a entrepris une série de mesures pour restaurer cette collection, la diffuser et la mettre en valeur. Elle a procédé au catalogage des documents, à la réparation des 1000 ouvrages endommagés, et à la restauration des livres qui exigeaient une intervention plus complexe. L'exposition « L'Institut canadien de Montréal, tolérance et liberté de penser », de même que la présente conférence, s'inscrivent dans cette volonté conjuguée de BANQ et de l'Institut Fraser-Hickson de faire connaître une collection et une institution majeure du 19e siècle. Par son esprit libre et tolérant, par l'étonnante modernité de ses idées sur la démocratisation du savoir, l'Institut canadien de Montréal nous paraît aujourd'hui en avance d'un siècle sur son temps. Exempt de censure, la bibliothèque encyclopédique de l'Institut contient des ouvrages portant sur tous les sujets et appartenant à toutes les tendances idéologiques. Ses membres croient fermement qu'un savoir pluraliste forme la base d'un esprit éclairé. Pour eux, le progrès de la société passe nécessairement par une éducation accessible à tous, libre de préjugés, de classes et de religions. Ils ont la conviction que de la connaissance naît le discernement nécessaire à l'exercice des droits civils et politiques. À une époque où prévaut une pensée unique, catholique et conservatrice, l'Institut proclame son droit au pluralisme. À une époque où s'impose une nouvelle censure des écrits divergents, l'Institut offre à ses abonnés le libre choix de ses lectures. Merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions à poser, probablement, oui.
Bonjour, madame. Bonjour. Merci pour votre conférence très intéressante. Je m'appelle Alain Tremblay. Je suis responsable d'un organisme de sauvegarde du patrimoine funéraire au Québec, Écomusée de l'au-delà. On vient de faire une publication sur l'histoire du monument funéraire des Patriotes au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Ouais. Alors, on a fait beaucoup de recherches sur l'histoire de l'Institut, mm-hmm. et puis... D'ailleurs, notre publication est en ligne gratuitement. Je voudrais savoir, on a fait beaucoup de recherches à propos de la collection des œuvres d'art. Est-ce que vous l'avez retrouvée? Parce qu'on n'a rien trouvé. C'était supposé d'être au Musée des Beaux-Arts, l'ancêtre du Musée des Beaux-Arts qui a reçu cette collection-là. Eux, ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Alors, est-ce que vous, dans vos recherches, vous avez trouvé ça? Ce serait ma première question.
Oui.
Deuxième question, c'est en ce qui concerne les photos. Il y avait une collection de photos. Est-ce que dans les archives, vous avez trouvé ça?
OK. Nous, pour répondre à la première question, moi, je sais que tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, la collection des œuvres d'art avait été offerte à, je ne me souviens plus du nom, mais l'association... OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, cette collection-là leur avait été offerte. Ça ne fait pas partie des choses qui ont été conservées à l'Institut Fraser Hickson, à ma connaissance. Donc, si eux vous disent qu'ils l'ont pas, je n'ai pas rien lu qui pourrait me laisser penser que ça pourrait être ailleurs.
OK. Puis, ni les photos...
Les photos, nous, on a des ouvrages de photos qui ont été vraiment... qui ont été offertes par le prince Napoléon. C'est vraiment des registres de photos collées. Puis, c'est des photos, en fait, d'œuvres d'art, de différentes œuvres d'art qui ont été prises à l'époque. Mais je ne sais pas si la collection de photos elle-même, s'il y avait une collection plus vaste, plus étendue de photos là, libres dans des classeurs, tout ça. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Moi, je n'ai pas rencontré d'informations à ce sujet-là dans mes recherches. Et peut-être, je ne sais pas si les gens de l'Institut Fraser Hickson sont au courant de quelque chose par rapport à une collection de photos.
Dernière question, c'est plus de... En réalité, je me suis toujours demandé si l'incendie de l'Institut était un incendie criminel, parce que ça se passe en même temps que l'incendie du Parlement en 49. Alors, mais c'est pas clair, parce qu'en lisant les journaux, tu dis, c'est pas clair, on dirait qu'ils veulent pas en parler,
ouais,
pour pas attiser le feu, peut-être.
Oui,
là,
mais... oui, parce que, oui, c'est une belle image. Bien, c'est sûr qu'en plus, dans ce même édifice-là, il y a les bureaux du journal L'Avenir, qui est le journal des radicaux, des rouges. Donc, c'est sûr que la question se pose, est-ce qu'effectivement quelqu'un aurait pu avoir cette idée-là? Si c'est le cas, ça n'a jamais été... on n'a jamais trouvé le coupable, là, mais c'est sûr qu'on peut penser que c'est une hypothèse. Là,
merci, madame. Votre...
Merci.
Merci. Je m'appelle Jean-Denis Archambault. Félicitations pour votre présentation. J'ai une question qui concerne l'Institut Fraser. Après que plusieurs institutions aient refusé à l'époque d'accueillir la collection, qu'est-ce qui a amené l'Institut Fraser? On peut soupçonner évidemment qu'ils n'étaient pas de la même allégeance religieuse, donc ils jouissaient d'une certaine liberté à cet égard-là. Mais qu'est-ce qui était à cette époque-là l'Institut Fraser et de quelle façon l'Institut a consenti à ouvrir ses portes, à accueillir la collection et en tirer avantage auprès d'une certaine clientèle à cette époque-là? Est-ce qu'on peut savoir?
Bien, en fait, ce que moi, je sais, c'est, bon, pour expliquer un petit peu la naissance de l'Institut Fraser, c'est un donateur qui, à sa mort en 1870, je pense, a offert des fonds pour démarrer une bibliothèque publique. Il y a eu, je pense, des procès, des héritiers, tout ça, qui ont retardé la chose, ce qui fait que en 1885, ils avaient, je pense, reçu d'un côté l'ancienne bibliothèque de une bibliothèque anglophone, l'American Merchandise, en tout cas. Oui, c'est ça. La bibliothèque anglophone servait de fonds anglophones. Et pour avoir un fonds francophone, étant donné que c'était au moment où l'Institut canadien avait des problèmes financiers, avait fermé ses portes, je pense que la première approche en 1880 qui avait été faite, ce que les gens de l'Institut souhaitaient, c'était vendre l'édifice, parce que l'Institut Fraser cherchait aussi à ce moment-là un édifice pour mettre ses collections. Donc, ils avaient voulu vendre leur édifice ainsi que leur collection, mais je pense que, probablement étant donné des coûts, les dettes que l'Institut avait qui étaient assez lourdes, finalement, les tractations n'avaient pas abouti. Et l'Institut canadien a vendu son immeuble d'un côté pour se renflouer, pour payer ses dettes. Et c'est ensuite qu'il a offert, à l'Institut Fraser sa collection. Je pense aussi parce qu'il désirait l'offrir à une institution qui n'allait pas censurer la collection. Donc, je pense que c'est probablement une des raisons pour lesquelles c'est cet endroit-là qui a été choisi, même si c'était une association anglophone. Mais il voulait que cette collection-là demeure intacte. Et dans le milieu francophone, ça aurait été plus difficile à cause des pressions du clergé, je pense.
Merci. Une sous-question, mais peut-être plus difficile. Mais est-ce qu'on sait si par la suite, effectivement, les usagers de l'Institut, certains d'entre eux ou elles, ont pu se tourner puis ont effectivement eu recours à l'Institut Fraser pour avoir accès à la même littérature? Est-ce qu'on sait si ça s'est fait? Je vous remercie.
Bien, le peu que j'en sais, c'est que, étant donné que je pense que l'édifice était sur Dorchester à l'époque, c'est ça, et c'était vraiment le coin plus anglophone, donc les francophones ont moins fréquenté, puis je pense petit à petit, peut-être au début davantage, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, puis après, bon, au début du 20e siècle, il y a eu la Bibliothèque municipale de Montréal aussi qui est arrivée. Donc, je pense qu'au fil du temps, les gens ont peut-être cessé de consulter cette bibliothèque-là. Je pense qu'il y avait une réputation un peu sulfureuse aussi qui était accolée à cette collection-là pour les francophones. Donc, il y a plusieurs aspects.
Bonsoir, merci pour votre exposé intéressant. J'aimerais savoir si vous avez analysé la provenance des membres de l'Institut. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient dans la vie en général? Est-ce que c'est des gens qui avaient un certain rayonnement dans la société, d'une part? D'autre part, est-ce qu'il existe une bonne histoire de l'Institut canadien? Je sais que sur l'affaire Guibord, il y a quelques écrits importants, mais sur l'histoire de l'Institut canadien, est-ce qu'on peut
Sur l'histoire de l'Institut canadien, c'est sûr, la personne qui en a le davantage écrit, c'est Yvan Lamonde. Il a fait un ouvrage complet sur les conférences et les essais et les débats qu'il y a eu. Il a écrit plusieurs articles sur, par exemple, sur la composition des catalogues de 1852 et de 1870. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de monographie qui est consacrée entièrement à l'Institut canadien, même s'il y a beaucoup d'ouvrages qui vont contenir un chapitre sur l'Institut canadien, des ouvrages sur la vie littéraire, par exemple. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'ouvrage complet. Votre première question, c'était sur la composition des membres de l'Institut. Il y a deux messieurs, M. Olson et Harvey, qui ont fait, je pense, dans les années 80, une étude qui portait à la fois sur la circulation des documents, quels livres étaient empruntés en réalité à la bibliothèque et qui les empruntait, qui étaient les abonnés. Et j'ai pas l'étude avec moi. Ce que je vous en disais tout à l'heure, c'est que dans les dernières années, les artisans ont commencé à devenir une part quand même de plus en plus importante du membership, jusqu'à 25%, je pense. Mais au départ, les premières années, c'était beaucoup des gens des classes plus aisés, des gens qui allaient devenir des hommes politiques, des journalistes. Il y avait beaucoup d'étudiants, mais des étudiants qui faisait quand même partie de la couche un petit peu plus privilégiée de la société, même si je voyais en regardant les registres qu'il y avait quand même aussi des commis, des tailleurs de costumes. Il y avait quelques femmes aussi. Mais je pense que plus les années passaient, plus la proportion de gens des classes sociales moins aisées augmentait par rapport au début. Et il y avait une proportion aussi d'anglophones, mais je pense qu'elle n'était pas, si grande que ça.
Est-ce qu'un organisme quelconque aurait pris la relève de l'Institut jusqu'à nos jours? Et situez-vous Cité libre dans la lignée de l'Institut?
Je ne suis pas une spécialiste de la revue Cité libre, vous parlez? Je ne pourrais pas répondre là-dessus. Je ne suis pas une spécialiste. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des opinions là-dessus. Oui, monsieur, oui, vous avez une opinion? Oui.
Là, c'est dans le débat, ils ont parlé des bibliothèques, et puis vous avez parlé en 1917 qu'on a inauguré la bibliothèque que j'ai visitée avant qu'on ouvre ici, la oui. bibliothèque en face du parc La Fontaine. Oui. Mais vous savez, il y avait eu un documentaire à un moment donné qui avait parlé qu'en 1901, Carnegie voulait donner de l'argent pour construire une bibliothèque à Montréal, et le maire Préfontaine a refusé en disant que cet argent-là venant d'un protestant, on ne pouvait pas l'accepter.
Oui, Carnegie, effectivement, c'est arrivé. Carnegie a offert de l'argent. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de bibliothèques au Canada qui ont été fondées avec les fonds de Carnegie. Et Montréal a effectivement refusé. Voilà. Parce que aussi, d'une part, pour bien des gens, moi, je lisais que les échevins à l'époque disaient, oui, bon, la bibliothèque, c'est une chose de luxe.
Il était prêt à donner l'argent.
Oui, c'est ça, il était prêt à payer, mais c'était trop dangereux. En fait, la bibliothèque municipale de Montréal a été, si mes souvenirs sont bons, fondée plutôt vers 1903, quelque chose comme ça. Mais on l'appelait la bibliothèque industrielle, c'est-à-dire qu'elle contenait pas de romans.
Quand on a vu le bâtiment, quand j'ai visité l'exposition, il avait dit qu'il y avait une voûte où il mettait les livres à l'index parce que même si c'était une bibliothèque.
Oui, tout à fait.
Et justement, ça m'a fait penser que dans l'affaire Guibord, on oublie que ça a été un long procès, il a fallu envoyer l'armée.
Ouais.
Beaucoup des gens qui étaient là-dedans, qui défendaient l'affaire Guibord, étaient des gens des Rouges,
ouais.
dont c'était les maîtres à penser de Wilfrid Laurier. On oublie que dans ces années-là, il était même séparatiste en 1867. Il avait dit que la Confédération, ça serait le tombeau de la race canadienne-française. C'est incroyable d'un gars qui devient premier ministre 30 ans plus tard.
Ouais.
Et c'est ça. Il y a aussi un autre débat qui m'a frappé, c'est qu'un jour, j'étais curieux. J'ai aidé à faire un film sur... qui s'appelait La famille Dubois, c'était le cas de la famille en 71, on avait descendu, où le curé Labelle avait descendu du bois pour aider les Montréalais, il avait obtenu son chemin de fer. Et l'autre film qu'on devait faire, c'était sur le chemin de fer sur glace. Alors j'en ai profité pour consulter La Patrie du début, le journal d'Honoré Beaugrand, et là j'ai eu un choc. Comme vous savez, Honoré Beaugrand était très à gauche, mais au début de son journal, il avait publié son roman, Jeanne la fileuse, qui était quand même un roman sur les patriotes. Et là, même si l'Institut s'est un peu enlisé, on oublie que les journaux au début... publiait des feuilletons, des romans. Alors, je ne sais pas si les curés ne se sont pas un peu contre-attaqués quand on dit à un moment donné, il y a certains romans qui ne devraient pas être publiés parce que c'est... il y a eu une sorte de lutte entre la presse à grand tirage et encore des curés.
Bien, c'est sûr qu'il y avait une lutte. Puis dans la lettre pastorale de Bourget de 1858, il s'en prend effectivement aux feuilletons immoraux des journaux. Il dit aux pères de famille de ne pas laisser leurs enfants mettre la main là-dessus.
Et ça, vous savez que le pays va être condamné. Puis on oublie qu'à Québec, c'est quel journal qui était avant Le Soleil, qui a été condamné, puis ils ont changé le nom du journal à la dernière minute pour être sûr que comme ça, il ne se ferait pas attaquer. On dit que le rédacteur aurait vu Le Soleil sur le plateau des terrasses du Soleil, il aurait changé le nom du journal à la dernière minute. Comme ça, il passait le passement parce qu'il avait condamné le nom de l'ancien journal, mais là, il disait aux ceux qui vendaient le journal, mais là, Le Soleil n'a pas été condamné. Et plus tard, juste un détail, c'était pas Jean-Charles Harvey qui était au Soleil qui s'est fait condamner à cause de son fameux roman Les Demi-Civilisés. On l'a garoché, qu'on l'avait envoyé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, puis même là, ils ont trouvé qu'il était trop dangereux. Alors, ils l'ont foutu, je sais pas où. Ils l'ont mis, quoi, aux statistiques, parce qu'il était jugé. Jean-Charles Harvey, qui a plus tard fondé Le Jour, qui était un journal de faut le lire, incroyable. Il a backé De Gaulle durant la guerre. Il a même fait un discours en 1945. Comment c'était sur la... C'était pas sur la tolérance, la peur, je sais pas quoi, en tout cas. C'était vraiment un homme de gauche. Mais là encore, il a subi un peu la censure de Duplessis après la guerre. Ouais. En tout cas, mais là, vous voyez tout le débat sur la question des journaux, de l'écrit.
Mais c'est sûr.
C'est en quelle année qu'ont finalement l'index a été aboli au Vatican?
En 1960
oui. Donc, ça aurait suivi Vatican II.
Oui, oui. C'est à la suite de Vatican II. Oui. Ça fait pas longtemps qu'on est sorti de l'auberge. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Est-ce que... Oui, tout à fait.
Est-ce que les coordinations, est-ce qu'ils ont été condamnés autant que...
En fait, il y a eu, je pense, à ma connaissance, peut-être une soixantaine d'instituts dans à peu près toutes les villes d'une certaine importance au Québec. Là, l'Institut canadien de Montréal, c'est vraiment le premier, mais pas longtemps après, là, il y a eu vraiment une explosion d'instituts, dont celui de Québec, qui est né, je pense, en 1848. Je crois, 4 ans après celui de Montréal. Et eux, et il existe toujours l'Institut canadien de Québec. C'est eux qui gèrent les bibliothèques municipales de la ville de Québec actuellement. Je sais, j'ai travaillé pour eux il y a quelques années. Puis, et eux, ils ont suivi un parcours totalement différent. C'est-à-dire que quand la soupe a commencé à être chaude, ils ont décidé de collaborer avec le clergé et d'ouvrir leur bibliothèque et de censurer la bibliothèque et de suivre les recommandations du clergé. Et de cette façon-là, ils ont survécu. Et je crois que c'est le seul institut canadien qui subsiste encore aujourd'hui. Sous toute réserve, là, je pense que c'est le seul. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ou,
c'est une petite remarque. Lui-Antoine Bessaud,
oui.
C'est le père de Caroline Bessaud, qui est une très, très grande féministe, qui a fondé avec Marie-Janelle Achevard la Fédération nationale de Saint-Jean-Baptiste. Alors, il y a une fille qui a quand même...
Oui. Oui, oui, effectivement. Puis, fallait être courageux parce que la plupart des gens qui ont essayé à l'époque, les hommes en tout cas, ont vu des carrières se fermer devant eux. Merci.
Justement, à ce sujet, est-ce que c'était relié au désordre de Saint-Hyacinthe?
Oui,
c'est ça, la fameuse famille.
Oui,
hein? Bon.
C'est ça, oui. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup.